de Radio Classique avec David Abiker.
Les voix de l'économie sur Radio Classique à 7h13. François, votre invité est professeur à l'INSEAD et ancienne conseillère économique d'Emmanuel Macron.
Bonjour Alexandra Roulet.
Bonjour François Geffrier.
Bienvenue sur Radio Classique. On repose la question du plein emploi ce matin. Est-il atteignable? Peut-on vraiment descendre à 5%? C'est ça qu'on estime être le plein emploi en France, alors qu'on était descendu à 7,2, ce qui était déjà du jamais vu depuis 40 ans, et que là, on est gentiment en train de remonter à 7,5% de la population active.
Oui, alors on remonte légèrement du fait essentiellement de la conjoncture. Je pense que c'est important de distinguer un peu deux acceptions du mot plein emploi. Donc d'une part, il y a l'acception qui renvoie au concept économique, donc en gros ça désigne un état dans lequel le taux de chômage est réduit au taux de chômage frictionnel, c'est-à-dire le temps moyen qu'il faut pour trouver un emploi et donc à peu près 5% comme vous le disiez. Et puis il y a une acception un peu plus large qui est en fait d'ailleurs plus politique et qui renvoie elle plutôt au taux d'emploi. Et qui consiste à dire que le plein emploi c'est quand la plupart des gens qui sont en capacité de travailler travaillent. Donc, comme vous le savez, il n'y a pas que des chômeurs ou des gens en emploi, il y a aussi des inactifs. Et donc, dans cette acception plus large, on vise pas seulement à faire baisser le taux de chômage, on vise à faire monter le taux d'emploi. Et donc aussi, non seulement à faire baisser le taux de chômage, mais aussi à faire baisser le taux d'inactivité. Et une grande partie des réformes, notamment de l'an dernier, ne visait pas
directement la réforme des retraites,
Et la réforme du RSA, qui accompagne les gens qui sont des bénéficiaires du RSA, donc typiquement souvent inactifs, vers l'emploi, vise à faire augmenter le taux d'emploi sans nécessairement faire baisser le taux de chômage. Donc je pense que c'est assez important de dire...
Ce qui n'est pas évident d'ailleurs, on parlait de la semaine de l'éducation financière il y a un instant, ce n'est pas évident à comprendre pour tous nos compatriotes.
Ce n'est pas évident à comprendre, je pense que c'est pour ça que la communication s'est beaucoup concentrée, ou en tout cas ce que les gens ont retenu, c'est beaucoup cette idée de taux de chômage à 5%, mais c'est quand même fondamentalement important, parce que l'objectif premier, je pense, du gouvernement, c'est de réduire l'écart qu'il y a entre la France et d'autres pays en termes de nombre d'heures travaillées tout au long de la vie. On sait qu'on travaille moins d'heures tout au long de notre vie en France que par exemple en Allemagne. Et la plupart des réformes visent à réduire cet écart. Et donc le taux de chômage est évidemment un des corollaires et un des outils, c'est de réduire le taux de chômage, mais c'est pas le seul. Et c'est assez important de l'avoir en tête parce que quand on est dans une période comme aujourd'hui où du fait de la conjoncture, le taux de chômage remonte un peu, on a l'impression qu'on s'éloigne de l'objectif, alors qu'en fait, pas forcément. Il faut juste attendre que la conjoncture, que le cycle se retourne, et on verra qu'on est bien en tendance dans la bonne direction.
Si on continue à se comparer, c'est pas le fait que ceux qui travaillent ne travaillent pas assez d'heures, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer avec les 35 heures, c'est plutôt que soit les jeunes ne sont pas assez en travail, soit les plus seniors sont pas assez en travail, et qu'il y a beaucoup d'inactifs, c'est ça ?
On a encore un écart dans le taux d'emploi aux deux extrémités du cycle de vie, donc chez les jeunes et en effet chez les seniors. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une grande partie des mesures qui ont été mises en place les dernières années et qui sont discutées actuellement visent ces deux catégories-là. On a beaucoup moins de problèmes dans le milieu de la distribution d'âge.
Et par rapport à ce que vous disiez sur le RSA, sur le taux de chômage et le taux d'emploi, effectivement avec la réforme du RSA, on va avoir des centaines de milliers de personnes qui vont être de fait inscrites automatiquement au chômage, ce qui peut faire gonfler dans un premier temps les chiffres du chômage. Mais si à terme, un jour, une partie d'entre elles en tout cas se retrouve en emploi, on va faire progresser le taux d'emploi.
Exactement, de ce point de vue-là, c'est un acte assez courageux, parce que souvent certaines mesures sont prises pour faire baisser mécaniquement le taux de chômage. Là, c'est l'inverse. Le gouvernement a fait le pari de mettre en place une mesure qui mécaniquement va plutôt avoir un effet d'augmenter le nombre de demandeurs d'emploi, mais dont l'idée sous-jacente est justement, comme je vous le disais, de faire progresser le taux d'emploi et d'essayer de faire basculer un maximum de personnes de l'inactivité vers l'activité.
Alors vous avez évoqué la conjoncture, effectivement il y a un ralentissement en ce moment, croissance attendue de 0,8% selon la Banque de France cette année, le gouvernement espère encore 1%, dans un cas comme dans l'autre c'est faible. Cela dit, autrefois, on disait qu'il fallait 2% de croissance pour créer des emplois. Ces dernières années, depuis la sortie du Covid, on s'est contenté de beaucoup moins pour avoir un chômage qui a baissé, puis là, qui remonte un petit peu.
Il y a eu des créations d'emplois post-Covid qui étaient très fortes par rapport au taux de croissance. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Et elles étaient en partie inexpliquées. C'est-à-dire qu'il y avait souvent un effet de surprise quand les chiffres de création d'emplois sortaient. C'était plus fort que ce qu'on attendait du fait de la croissance. Là, on voit qu'il y a eu une correction puisque les créations d'emplois sont plutôt à l'arrêt, mais Là encore, je pense qu'on a toujours des offres d'emploi non pourvues. Donc on a un cycle économique morose en ce moment, mais qui va se retourner très prochainement.
Est-ce que l'impact des plans d'économie, 10 milliards d'euros d'économie là tout de suite en 2024, peut-être encore un collectif budgétaire cet été, puis 20 milliards d'économies annoncées pour l'an prochain au niveau du budget de l'État, ça peut avoir un impact négatif sur l'emploi?
Alors, ce qui est toujours compliqué, c'est que les gouvernements a plusieurs objectifs. Donc, il y a clairement un objectif de finances publiques qui oblige à faire des économies, et cet objectif, il est très pressant. Et en même temps, il est aussi évident que couper dans les politiques de l'emploi ne va pas forcément nuire, mais ne peut pas aider. Ça c'est évident. Simplement, il faut quand même avoir en tête les ordres de grandeur, c'est-à-dire que si on prend les coupes qui pourraient avoir lieu dans les politiques de l'emploi, quel que soit le chiffrage, on voit que ça fait forcément une proportion des 10 milliards, donc mettons 1 milliard, c'est pas non plus nécessairement de nature à totalement changer la donne, notamment si ça se concentre sur des mesures de ciblage, où on peut aller en gagner en efficacité sans nécessairement restreindre l'efficacité globale de la politique.
Avec tout ce qu'on s'est dit, Alexandra Roulet, on pourrait imaginer que le plein emploi pour ce quinquennat, ça paraît cuit, en tout cas les fameux 5%. Le gouvernement semble y croire encore. Sa dernière cartouche, c'est cette nouvelle réforme de l'assurance chômage qui se dessine, la quatrième d'Emmanuel Macron à l'Élysée, la cinquième même si on compte la loi El Khomri quand lui était encore à Bercy, au ministère de l'économie.
Oui, alors je suis plus réservé sur la nécessité d'enclencher rapidement une nouvelle réforme de l'assurance chômage, en partie pour la raison que vous venez de mentionner, qui est le fait qu'il y a déjà eu plusieurs réformes. Et donc, autant il y a quelques années, il était criant qu'il était urgent de réformer l'assurance chômage française, autant ce constat devient de moins en moins vrai à mesure que les réformes se succèdent. Donc, ma crainte, c'est que les effets emploi d'une nouvelle réforme soient moindres du fait qu'on a déjà réformé l'assurance chômage et du fait que on est, comme on le disait précédemment, en conjoncture économique morose. Ça ne veut pas. J'ai pas les derniers chiffres en tête concernant la trajectoire financière de l'UNEDIC, donc peut-être que ceci justifie de se pencher à nouveau sur.
Il y a souvent une bataille de chiffres entre.
Il y a souvent une bataille de chiffres. Mais enfin, quand même, on peut. Donc, il y a à la fois donc la question budgétaire qui peut nécessiter de réouvrir ce chantier, et puis il y a le fait que malgré tout, même si les effets emploi seront nécessairement, selon moi, moindres que ce qu'on peut espérer, ils sont toujours positifs. Donc après, il faut faire bien attention si réforme il y a, de la calibrer de façon à maximiser les effets emploi et budgétaires tout en minimisant les risques que ce genre de réforme peuvent créer sur le taux de pauvreté, etc.
Les partenaires sociaux, de leur côté, négocient sur l'emploi des seniors et il semble que la piste d'un CDI senior fasse un relatif consensus. Il s'agirait d'embaucher un senior qui est au chômage en fixant dès le départ sa date justement de départ, à savoir la date qu'il aura validé tous ses trimestres. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce CDI senior?
Alors, l'avantage, c'est une piste intéressante. L'avantage, c'est de, en permettant à l'employeur de ne pas conserver le senior jusqu'à la date de mise à la retraite d'office, c'est-à-dire potentiellement de pouvoir le licencier plus tôt s'il a atteint son âge de départ à la retraite en taux plein, c'est le mécanisme par lequel, en réduisant les coûts de licenciement, on va favoriser les embauches. Donc l'idée est d'inciter les entreprises à embaucher des seniors demandeurs d'emploi qui sont généralement un peu victimes de discrimination sur le marché du travail, c'est-à-dire qu'ils trouvent moins facilement à être embauchés. Après, la réserve, alors j'ai pas le détail exact de la proposition, mais la réserve avec ce genre de dispositif, c'est toujours le fait d'éviter les effets de seuil. Par exemple, vous vous rappelez sur la contribution de Lalande qui visait à taxer les licenciements après un certain âge, ça avait eu un effet pervers d'encourager les licenciements juste avant l'âge fatidique. Donc là, je ne sais pas exactement quels sont vraiment les détails pratiques, les contours de ce CDI senior. Je pense que c'est une piste de réflexion intéressante, mais il faudra aller bien voir dans le détail. S'assurer qu'il n'y a pas ce genre d'effet pervers.
Alexandra Roulet, merci beaucoup. Professeur à l'INSEAD et ancienne conseillère économique d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne.
Merci à tous les deux. François, à demain 6h pour la matinale de l'économie. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique. David Doucan évoque la loi sur la fin de vie. Son adoption est loin d'être évidente. Radio Classique, 7h20.